France Culture.
On fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et nous serons à Bruxelles dès le début de ce journal à l'occasion d'un nouveau Conseil européen destiné à soutenir de manière sonnante et trébuchante l'Ukraine face à son agresseur russe. Et puis on se rendra également à Moscou pour connaître la réaction du Kremlin après que l'administration américaine a décidé hier soir de sanctions directes, soit un virage politique majeur de la part de Washington. À suivre également la création d'un futur champion européen des satellites. Et puis l'actualité en France, c'est tout d'abord ce crash test la nuit dernière en commission avec le rejet du projet de budget 2026, de quoi laisser présager, on le verra, une impasse pour son adoption à l'Assemblée. On reviendra sur un autre feuilleton, lui aussi interminable, celui sur le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Enfin, avec notre invité, on parlera diplomatie féministe à l'heure où les menaces de régression des droits s'accumulent partout dans le monde. Face aux efforts de Washington jusque-là improductifs auprès de Moscou, plus exactement face à l'attitude erratique de Donald Trump et compte tenu par ailleurs des revendications toujours maximalistes de son homologue russe Vladimir Poutine, comment sortir de l'impasse en Ukraine quelques heures seulement après que le locataire de la Maison-Blanche a confirmé l'annulation de sa rencontre bilatérale prévue avec le maître du Kremlin? Les dirigeants européens ont choisi de se retrouver aujourd'hui à Bruxelles pour une énième démonstration de soutien au président Volodymyr Zelensky, mais pas seulement. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, de manière tout à fait concrète, les Européens ont formellement validé ce matin un 19e train de sanctions contre Moscou, qui prévoit notamment un embargo sur les importations de gaz naturel et qui augmente aussi la pression sur les avoirs russes gelés dans l'UE.
Effectivement, 210 milliards d'avoirs russes gelés en Europe qui doivent servir de caution, en quelque sorte, un prêt de réparation à l'Ukraine. 140 milliards pour couvrir ses besoins financiers jusqu'en 2027. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé au Conseil européen ce matin, avait donc de quoi se sentir bien accueilli par ses partenaires européens. Soutien d'autant plus précieux quand Donald Trump, vous le rappeliez, souffle encore le chaud et le froid. Volodymyr Zelensky salue la cohérence des mesures annoncées par les Européens aujourd'hui.
Ensemble, nous devons mettre la pression sur Poutine pour qu'il arrête cette guerre. La pression, ce sont bien sûr les paquets de sanctions et aussi un soutien financier de long terme à l'Ukraine dont nous allons parler aujourd'hui. C'est essentiel. Merci pour votre unité, merci pour ce soutien.
Dans ce 19e paquet de sanctions contre la Russie, on trouve notamment un gros chapitre sur les hydrocarbures russes, l'interdiction d'importer du gaz naturel liquéfié, l'interdiction de toute transaction avec les géants du secteur, Rosneft et Gazpromneft, ou encore l'ajout de 117 navires de la flotte dite fantôme qui continuent d'écouler clandestinement du pétrole russe. Plus de 550 sont désormais interdits de transit dans les ports européens.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Alors, ces nouvelles sanctions européennes interviennent après que d'autres sanctions qualifiées d'énormes contre le secteur pétrolier russe ont été annoncées la veille par les États-Unis, toujours dans l'espoir d'amener le Kremlin à mettre fin à sa guerre en Ukraine. Donald Trump a carrément laissé éclater son exaspération hier envers son homologue Vladimir Poutine, ce qui marque évidemment un nouveau tournant abrupt de la position de Washington. Comment la Russie a-t-elle réagit? Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Manifestement, il y a un vrai changement de ton à Moscou, où on ne balaye pas d'un revers de la main ces nouvelles sanctions, comme d'habitude, même si on prétend que le pays en a connu d'autres et qu'il est immunisé. La pilule semble quand même difficile à digérer, d'autant plus qu'il y a quelques jours, on pavoisait en évoquant la future rencontre de Vladimir Poutine avec Donald Trump en Hongrie, sur le sol européen. L'ascenseur diplomatique vient de redescendre à la cave, en quelque sorte. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères condamne. Nous considérons cette démarche comme contre-productive, ce matin Maria Zakharova. L'ancien président Dimitri Medvedev, dans son style toujours sans nuance, fustige le bavard faiseur de paix, c'est comme cela qu'il désigne Donald Trump, désormais pleinement engagé sur la voie de la guerre avec la Russie, dit-il. Le Kremlin n'a toujours pas réagi à l'heure qu'il est, c'est un signe, probablement. Jusque-là, la présidence russe a toujours pris soin de ménager Donald Trump, même quand celui-ci semblait se fâcher contre Vladimir Poutine, mettant cela sur le compte de l'émotion. Mais jusque-là, jamais encore, le président américain n'avait joint les actes à la parole. Les sanctions américaines sur les deux principales sociétés pétrolières russes et potentiellement sur tous ceux qui traitent avec elles font courir un risque aux finances de l'État russe, déjà malmené par 3 ans et demi de sanctions qui, si elles n'ont pas mis l'économie russe à genoux, lui posent quand même de sérieux problèmes.
Y a-t-il encore une chance, même minime, de voir aboutir enfin la paix au Proche-Orient depuis l'instauration officielle d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? C'était le 10 octobre dernier. Chacun des deux camps s'accuse mutuellement de rompre la dite trêve, laissant ainsi planer l'ombre toujours plus menaçante d'une résurgence de la guerre. Et d'ailleurs, le grand ordonnateur de ce soi-disant gel des hostilités, Donald Trump en personne, le sait bien. Lui qui, depuis le début de la semaine, ne cesse d'envoyer par salve des membres de son administration pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être de l'accord après deux émissaires, après le vice-président. Aujourd'hui, c'est au tour du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, de se rendre sur place avec un défi supplémentaire, convaincre à présent l'État hébreu de renoncer à ses plans d'annexion en Cisjordanie, alors même que la Knesset, le Parlement israélien, s'est justement prononcé hier soir pour l'examen de deux projets de loi en ce sens.
Voilà plus de cinq mois déjà qu'il n'avait pas pressé sur le bouton.
Hier, le président autocrate de la petite république recluse de Corée du Nord a procédé au lancement de plusieurs missiles balistiques hypersoniques que Pyongyang présente d'ailleurs ce matin comme de l'armement de pointe, une provocation militaire de plus qui intervient une semaine seulement avant l'organisation chez son voisin du Sud d'un sommet international auquel participeront plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump. Alors dans un contexte géopolitique aussi tendu, il en est une qui peine bien souvent, c'est vrai, à se faire une place au milieu de cet agenda déjà passablement anxiogène, c'est l'écologie. Elle devrait toutefois parvenir aujourd'hui, toujours à l'occasion d'ailleurs de cette réunion des 27 à Bruxelles que l'on évoquait en début de journal, avec notamment cette question aussi brûlante que cruciale, comment concilier la lutte contre le réchauffement climatique avec la nécessaire sauvegarde de l'industrie. En l'occurrence, deux dossiers illustrent tout particulièrement cette difficulté des Européens à trouver le bon équilibre. Tout d'abord, l'interdiction de vendre des voitures thermiques neuves dans l'UE à partir de 2035 et ensuite l'adoption d'un objectif commun pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2040.
Elles sont de plus en plus pointées du doigt pour leur responsabilité justement dans le réchauffement de la planète, et ce en dépit de leur débauche d'énergie en termes de marketing climatique.
Oui, elles, ce sont les compagnies pétrolières, et ce matin la major française Total Énergie a été partiellement condamnée par le tribunal de Paris dans une affaire d'éco-blanchiment, plus exactement pour avoir trompé les consommateurs avec sa communication sur la neutralité carbone.
C'est ce qu'on appelle une méga-fusion.
Trois poids lourds européens, Airbus, Thales et Leonardo ont signé ce matin un protocole d'accord en vue de fusionner leurs activités dans les satellites, un projet destiné notamment à contrer la domination de la constellation d'Elon Musk. Starlink, Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors la nouvelle entité commerciale et militaire issue de ce rapprochement pourrait être opérationnelle dès 2027 si toutefois la Commission européenne donne son feu vert. Et bien entendu, l'objectif donc de création d'un tel champion européen, Valentin, c'est de concurrencer ses rivaux à la fois chinois et américains.
Oui, avec une superstructure, 25 000 employés, 6 500 000 euros de chiffre d'affaires prévu, Mastodonte, dont le siège sera implanté à Toulouse et dont la gouvernance sera équitablement répartie entre les trois groupes, sur le modèle par exemple du fabricant de missiles MBDA. Il y a urgence pour l'Europe à réagir car le secteur des satellites se transforme. Historiquement, il servait à la diffusion de la télévision payante, mais Elon Musk a rebattu les cartes. Ses satellites Starlink sont plus petits, moins chers et axés sur la fourniture d'Internet, nouvelle Eldorado face aux câbles déclinants. Surtout, il lance ses engins depuis les lanceurs SpaceX, ses propres lanceurs. Il maîtrise toute la chaîne de production. Un expert s'interroge d'ailleurs ce matin sur cette méga-fusion européenne qui réunit trois compagnies relativement similaires, sans renforcer une quelconque filière pour les 27. Airbus, Thales et Leonardo sont surtout tombés d'accord pour saisir l'opportunité de nouveaux investissements et de nouveaux marchés publics européens, dans la défense et dans le civil, avec la constellation IRIS-Carré qui doit concurrencer frontalement la constellation de Starlink. Il pourrait ainsi tirer parti d'un marché évalué à 570 millions d'euros d'ici 2035, tout en coupant les coûts. 500 millions d'euros d'économies par an sont prévus au titre, et je cite, de synergie, ce qui fait déjà craindre aux syndicats de massives suppressions d'emplois.
Merci Valentin Gris.
Midi passé de 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
11 voix pour et 37 contre. Sans surprise, les députés ont largement rejeté la nuit dernière en commission la partie recette du budget de l'État pour 2026, plus exactement l'ensemble de la gauche, le Rassemblement national, mais aussi les Républicains, dont plusieurs ministres du gouvernement sont issus. De leur côté, les élus Modem, Horizon et Liotte se sont abstenus, de sorte que seuls les députés Renaissance finalement ont voté pour le texte. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, ces débats en commission ne servaient en quelque sorte que de tour de chauffe, puisque dès demain, en séance plénière cette fois-ci, les députés repartiront de la copie initiale du gouvernement. Mais déjà, ils présagent, Stéphane, des sessions agitées dans l'hémicycle, voire carrément d'ailleurs de l'issue finale.
Oui, l'examen en commission qui s'est achevé cette nuit par un rejet du projet de loi de finances à une très large majorité présage d'ores et déjà qu'il sera très, très, très difficile d'aboutir au mois de décembre à une adoption du budget 2026. Car ce qui s'est passé ces derniers jours est que chacun des groupes politiques a réussi à empêcher le vote de dispositions dont il estimait qu'il ne fallait surtout pas qu'elles figurent dans les lois de finances. Par exemple, la taxe Zuckmann, réclamée par le Parti Socialiste, a été rejetée en raison de l'opposition à la fois du socle commun et du Rassemblement National. De la même manière, la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, qui devait être une source d'économie budgétaire souhaitée par le gouvernement, a été biffée par une coalition des forces politiques d'opposition auxquelles se sont associés les députés de la droite républicaine. On a vu également la taxe sur les holdings qui devait rapporter 4 milliards d'euros complètement réécrite et vidée de sa substance. Il y a bien eu quelques taxes compensatoires, notamment une taxe sur les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, une contribution exceptionnelle sur les super dividendes et puis la contribution différentielle sur les hauts revenus déjà mise en place l'an dernier a été prorogée. Mais l'exécutif ainsi que le camp présidentiel considéraient que le compte n'y était pas. Le rapporteur du budget, Philippe Juvin, a lui-même estimé que ce budget n'était pas crédible en l'état. Il manquait, selon lui, 7 milliards d'euros et il s'est abstenu. Les groupes de gauche ont jugé qu'au bout du compte, aucune des grandes mesures qu'ils réclamaient n'avait été votée. Ni la taxe Zuckmann, on en parlait, ni le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune. La droite a estimé qu'il y avait trop de taxes et pas assez d'économies. Et le Rassemblement national, que rien n'allait dans ce volet recette du projet de loi de finances. Bref, personne n'était satisfait de la copie finale, d'où un rejet du texte à une très large majorité et un chemin vers le compromis qui s'annonce très incertain en séance publique dans les semaines à venir.
Merci Stéphane Robert.
Autre illustration de cet invraisemblable imbroglio à l'œuvre à l'Assemblée.
Oui, la proposition de loi organique déjà adoptée au Sénat et visant à reporter des élections provinciales cruciales en Nouvelle-Calédonie a été rejetée par la majorité qui est pourtant favorable à une manœuvre tactique du camp gouvernemental en réalité pour renvoyer le texte vers une commission mixte et ainsi éviter d'étudier les quelques 1200 amendements. Toujours est-il que plus personne n'y comprend rien et en attendant à Nouméa, eh bien le scénario qui est en train de se jouer laisse plutôt perplexe les précisions sur place de Charlotte Manville.
La Nouvelle-Calédonie s'est une nouvelle fois réveillée prisonnière d'un mauvais film. Voilà des mois que le territoire est suspendu à une seule question. Y aura-t-il des élections ou pas en novembre? Joël Cazareru, président du mouvement réformateur Construire Autrement.
Il y a toujours une bonne raison de faire des lois d'exception, simplement. C'est la troisième fois qu'on fait une exception. C'est d'abord un enjeu de place, de siège. Et donc aujourd'hui, en plus, il y a le truchement des municipales qui arrive. Donc il y a cette anticipation qui fait que les tensions des partis augmente, mais il y a aussi surtout la querelle des égaux avec les élections présidentielles. Donc il y a des agendas qui vont perturber en fait des élections qui auraient dû se maintenir.
Un calendrier national qui percute le calendrier local alors qu'on aurait bien besoin de se donner du temps pour discuter. C'est le point de vue de l'éveil océanien, parti ni indépendantiste ni non-indépendantiste. Son président Milakoulo Tukumuli était favorable au report, à condition qu'il ouvre la porte à de nouvelles discussions sur l'accord de Bougival, rejeté par le FLNKS.
J'espère que quand le report sera acté, qu'il y aura un dialogue qui sera entériné. Maintenant, si on n'a pas de consensus sur un texte qui partirait de Bougival, nous, on n'est pas convaincus que d'avancer avec Bougival sans nos camarades soit la meilleure option.
S'il est déjà si compliqué de s'accorder sur la date d'un scrutin, comment trouver le chemin du dialogue? L'exercice est d'autant plus difficile qu'une autre donnée va rapidement compliquer l'équation. L'économie est à terre et le gouvernement calédonien est bien en peine d'établir son prochain budget. Les uns veulent un coup de main de l'État, quand d'autres appellent à mettre un terme à la dépendance financière.
Depuis hier, la France accueille la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes, l'occasion de réunir près d'une cinquantaine de pays au total qui tous entendent défendre à la fois les droits des femmes et l'égalité de genre dans leur politique internationale. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Delphine Haut, ambassadrice et secrétaire générale donc de cette 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, faut-il expliquer ce concept inventé donc en 2014, qui a été officiellement adopté depuis par 15 pays? Concrètement, à quoi correspond une perspective systématique de genre en politique étrangère.
La diplomatie féministe, c'est un concept qui est relativement nouveau, qui a une dizaine d'années, mais qui a été effectivement adopté par une quinzaine de pays. Je dirais c'est très simple, c'est juste faire en sorte que dans toute notre politique internationale, dans notre politique étrangère, on systématise la priorisation des droits des femmes et des filles. C'est-à-dire qu'on est constamment en tête que les femmes et les filles sont les premières impactées par toutes les crises. On parle de crise climatique, crise économique, crise sécuritaire, crise militaire. Les femmes et les filles sont toujours les premières victimes et il faut donc toujours faire en sorte que nous ayons en tête de les prioriser.
En 2023, le Haut Conseil à l'égalité avait rendu un rapport plutôt en demi-teinte sur la diplomatie féministe française. En l'occurrence, celui-ci saluait certes l'engagement pionnier de la France, mais appelait dans une vingtaine de recommandations à mieux définir, mieux assumer, mieux financer aussi la place donc de la diplomatie féministe. Est-ce que toutes ces recommandations ont été suivies ?
En grande partie, puisque en mars de cette année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, nous avons publié la stratégie internationale de la diplomatie féministe de la France. C'est un document relativement long, d'une cinquantaine de pages, mais qui donne une définition très précise qui consiste à placer l'égalité de genre au cœur de toute notre politique internationale. En termes de financement, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, dans un contexte de réduction de l'aide publique au développement, de coupe des financements internationaux, la France est le premier donateur international pour les organisations féministes des pays du Sud. En 5 ans, nous avons donné pour 250 millions d'euros, financé 1400 associations dans 75 pays du Sud.
Vous inscrivez très explicitement la tenue de cette conférence donc au regard d'un mouvement de retour en arrière à l'œuvre dans un certain nombre de pays dans le monde. Parmi les régressions que l'on peut observer donc sur le sujet des droits des femmes, est-ce que certaines attaques peut-être vous alarment plus spécifiquement ?
Effectivement, c'est ce qu'on appelle le mouvement de backlash ou de retour de bâton, des régressions des droits des femmes et des filles. Je pense que quiconque suit l'actualité internationale n'aura pas été aveugle à cela. On voit notamment aux Nations Unies, dans les enceintes multilatérales, qu'il y a des attaques très coordonnées, très systématiques, très bien orchestrées, pour simplement faire disparaître la mention de l'égalité de genre, le mot de genre, et également le mot de femme. Et face à ce backlash, face à ces attaques, c'est l'objectif de cette conférence, à niveau ministériel, de ministre des Affaires étrangères, de rassembler une masse critique d'États, de gouvernements, d'organisations internationales et aussi d'acteurs de la société civile qui vont réaffirmer leur engagement collectif à défendre les droits des femmes et des filles. Nous avons réussi à faire venir à Paris 55 pays, 55 délégations étatiques, 27 organisations internationales et c'est plusieurs centaines d'invités aujourd'hui qui sont réunis depuis hier à Paris pour réaffirmer cet engagement collectif.
Et effectivement, à la différence des précédents pays hôtes, je crois la France a fait le choix cette année d'inviter davantage donc d'États à cette conférence que les seuls 15 ayant officiellement adopté cette diplomatie féministe. Pourquoi était-il important de rassembler donc plus largement ?
Parce qu'aujourd'hui, on entend, notamment dans l'espace médiatique, un discours réactionnaire assez conservateur qui consiste à dire aussi que les questions, par exemple, de droits sexuels et reproductifs, d'avortement, sont une imposition de valeurs occidentales, qu'il s'agit de néocolonialisme. Absolument pas. C'est d'abord un droit international qui est protégé depuis 30 ans dans l'ensemble des conventions internationales des Nations Unies. Et il nous tenait à cœur aujourd'hui de montrer que les pays du Sud sont tout aussi mobilisés que les pays du Nord. Et nous avons la chance d'avoir des pays comme la Colombie, le Mexique, le Chili, l'Angola, le Sri Lanka, le Népal, l'Ukraine, on en parlait tout à l'heure, qui sont aujourd'hui présents à Paris à niveau ministériel pour dire que ce sujet-là est un sujet absolument universel et c'est d'abord un sujet de défense des droits.
Et ça va même au-delà, puisque de plus en plus de pays du Sud s'emparent de cette diplomatie féministe, quand à l'inverse, certains pays historiquement, disons, engagés sur le sujet tendent plutôt à l'abandonner.
Absolument. Il y a un groupe à New York qui s'appelle le groupe des diplomaties féministes, où nous avons 20 pays. Et les 4 nouveaux pays qui sont rentrés cette année, c'est le Maroc, la Slovénie, le Népal et le Royaume-Uni. Donc on voit vraiment que c'est pas un sujet exclusivement européen ou occidental. Et hier, le Sri Lanka a également annoncé rejoindre ce groupe des diplomaties féministes. Donc on a une vraie diversité de vues. Et aujourd'hui, de nombreux pays du Sud, qui historiquement n'étaient pas les plus grands champions de l'égalité de genre, se rendent compte qu'il est indispensable de défendre le droit et notamment le système multilatéral, parce que les droits des femmes et des filles sont en passe d'être supprimés des textes internationaux.
La semaine dernière, vous déclariez que les travaux menés dans le cadre de cette conférence devront aboutir à l'adoption d'une déclaration politique par les participants, ce qui en l'occurrence serait donc une première en la matière. Est-ce que vous y croyez ?
J'y crois absolument. La déclaration sera révélée et présentée ce soir lors de la cérémonie de clôture avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Nous avons à date une trentaine de signataires. Cela peut paraître peu, mais c'est en réalité beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui se font très très discrets sur le sujet de la défense des droits des femmes et des filles, et parce qu'une majorité de ces pays sont des pays du Sud.
Merci Delphine Haut, ambassadrice, secrétaire générale donc de cette quatrième conférence ministérielle des diplomaties féministes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par la tempête Benjamin. 19 départements, principalement de l'ouest et du nord, sont en alerte orange pour vent violent. En réalité, à l'exception du golfe du Lion qui devrait retrouver de belles éclaircies, les trois quarts du pays seront traversés par des nuages et surtout des pluies soutenues. Quant aux températures, elles seront comprise entre 13 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopar. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurore Richard pour le prochain journal de la rédaction.